Biston klack, biston klack, biston klack. Nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Roger Pastoury, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce 7e entretien.
Oui.
Dont le thème sera le Secours populaire français et le rôle que vous y avez joué, j'imagine. Je vous donne la parole.
Le Secours populaire français, c'est pour moi l'évocation d'un militantisme qui a duré 6 ans, qui a été le plus contraignant, le plus difficile, et où d'ailleurs au bout de 6 ans j'ai craqué, puisqu'il a fallu que j'arrête pour cause de maladie. La devise du Secours populaire français, c'est « Tout ce qui est humain est nôtre ». Cela demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de solidarité et en permanence un travail militant très dur, c'est-à-dire collecter des signatures ou collecter de l'argent. Le Secours populaire français est l'héritier de ce qui était, à partir des années 1920-25, le Secours rouge international. Déjà, lorsque j'ai adhéré aux jeunesses communistes en 1937, on me parlait du Secours rouge international. C'était une organisation qui avait des ramifications internationales et qui était très fortement implantée dans notre pays. Le Secours rouge international s'est surtout fait connaître dans la campagne qu'il avait menée pour Sacco et Vanzetti. C'était des anarchistes italiens qui avaient été arrêtés en Amérique et qui, après plusieurs années de prison, moururent électrocutés.
Le jour de Sacco Vanzetti, sur le port de Dieppe. Mais comment cela se fait-il qu'il y eut seulement des guêpes? Le jour de Sacco Vanzetti, quand les affiches du parti disaient d'aller au port de Dieppe, à quoi cela ressemblait-il qu'il y eut seulement des guêpes? Le jour de Sacco Vanzetti, n'en voilà-t-il un apprenti qui d'aller sur le port de Dieppe? C'était tout un roman bâti pour n'y rencontrer que des guêpes. le jour de Sacco Vanzetti. Qu'est-ce que tu croyais, petit, qu'il allait se passer à Dieppe? Aussitôt venu que parti, pour n'avoir trouvé que des guêpes. Le jour de Sacco Vanzetti, tu étais malheureux, fautif, pour espérer autant de Dieppe. Comme un changement pressenti, mais c'était compté sans les guêpes. Le jour de Sacco Vanzetti, le mal d'aimer qu'on s'en sortit en criant sur le port de Dieppe. Tu le croyais ferme et tu t'y trouvas tout seul avec les guêpes. Le jour de Sacco Vanzetti, la nuit d'après, tu t'es menti dans ce vulgaire hôtel de Dieppe. Indifférent à la partie qu'avaient bien pu jouer les guêpes, le jour de Sacco Vanzetti.
Puis, le Secours populaire, le Secours Rouge international, c'est par lui que commencèrent les nouvelles, les informations sur ce que, sur ce qui se passait dans l'Allemagne nazie. Il y a un député communiste qui avait été arrêté et qui avait été interné à Dachau. Et le Secours populaire français, le Secours Rouge international, avait fait publier une brochure de ce camarade arrêté, qui avait été torturé et qui avait été déporté, interné à Dachau. Déjà, nous avions le signal de ce que représentaient les tortures, de ce que représentaient les conditions affreuses dans lesquelles se trouvaient internés à ce moment-là les communistes et les chrétiens en particulier. Et puis, ensuite, le Secours populaire français, le Secours Rouge international, je fais toujours le lapsus parce que ce mot de Secours populaire français me tient à cœur, le Secours Rouge international se transforma en Secours populaire de France et des colonies. Ça se passait autour des années 1933-35, et je me souviens que ce Secours populaire de France et des colonies avait mené une grande action, un grand combat auquel je fus associé pour défendre Georges Dimitrov. Georges Dimitrov, qui était un Bulgare appartenant à l'International communiste, arrêté en Allemagne et qu'on accusait d'avoir fait flamber la Chambre des députés, le Reichstag, alors que c'était les services nazis qui avait réalisé cette opération. Ce fut un grand procès. Dimitrov fit preuve d'un courage extraordinaire et nous obtinrent sa libération. Ce fut déjà une très très grande victoire. Je me souviens que avant-guerre, là-bas à Gignac, j'avais pris l'initiative d'organiser une réunion du Secours populaire de France et des colonies, une réunion avec un camarade qui s'appelait Mamona. Et c'est ainsi que fut constitué à Gignac l'organisation qui allait mener ce combat de la solidarité pour la défense des victimes du fascisme. Pendant la guerre, ce Secours populaire français de France et des colonies que j'ai évoquées a poursuivi son activité très courageusement. Son organisation est restée solide. Ça a été un travail de solidarité, de défense des familles, des camarades qui étaient arrêtés, de défense de ces camarades qui étaient arrêtés. Et ça a été pour le Secours populaire français un très douloureux combat. Plusieurs de ses dirigeants ont été tués, ont été fusillés, et parmi les avocats qui défendaient le Secours populaire français, 3 de ces avocats ont été fusillés. C'est-à-dire Pitard, Rondilkas, Hadj, 3 avocats de talent qui étaient très connus déjà avant-guerre et qui ont poursuivi leur combat, cette disponibilité qui était la leur jusqu'à mourir. Voilà un peu le préalable que je voulais dire avant d'aborder ce qui me concerne plus directement, plus personnellement. Je voudrais dire que ce Secours populaire français qui avait pris naissance, qui s'était substitué au Secours populaire de France et des colonies, qui ne s'appelait plus que Secours populaire français, c'est dans ce Secours populaire français qu'en 1950, il me fut demandé de le diriger dans le département du Rhône. J'étais à ce moment-là à la direction de la Fédération du Rhône du Parti communiste français en tant que membre du comité fédéral. J'étais responsable de la commission paysanne et on me demanda de quitter ses activités pour m'occuper exclusivement du Secours populaire français. Je retrouvais là-bas le camarade Buisson, qui avait cette organisation à sa tête à ce moment-là, qui a fait un gros travail. Le camarade Buisson était imprimeur à Lyon, et malheureusement, il ne disposait pas de suffisamment de temps pour s'investir entièrement dans cette tâche. C'est ainsi que je fus désigné, parce que c'était la guerre froide, c'était le moment où, après ces années de joie, ces années extraordinaires qui suivirent la libération, avec les réformes sociales qui s'enchaînaient, vint la période de la guerre froide. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on me demanda de m'occuper du Secours populaire français, parce que la responsabilité de celui-ci se trouvait amplifiée. Je me souviens que les premières personnes que nous défendîmes, ce fut les camarades de la Résistance. Ce fut des camarades FFI, FTP, gaullistes, communistes, qui avaient fait des actions dans la Résistance, des actions de guerre, et qui, pour avoir mené ces actions de guerre, parce qu'il y avait eu des tués, étaient poursuivis, étaient condamnés, étaient arrêtés, étaient emprisonnés. Plusieurs de ces camarades, je m'en souviens très bien, étaient mes proches camarades. Il y avait le commandant Natto, par exemple. Il y avait plusieurs résistants qui étaient emprisonnés à Montluc. Il y avait tout un tas d'autres résistants poursuivis, et il fallut prendre leur défense. Il fallut mener des actions en profondeur, recueillir des listes de pétitions pour que, au moment où les tribunaux se réunissaient, où ils étaient traduits devant ce tribunal, on puisse obtenir leur acquittement, ce qui se produisit dans de nombreux cas. Et dans cette série d'actions du Secours populaire français, à mes débuts, j'ai retrouvé dans les documents compulsés pour préparer cette émission, j'ai retrouvé une liste de pétitions que j'avais rédigée à ce moment-là, qui s'appelait « La vérité est-elle interdite ?». Et dans le récit de ce court texte de présentation, il y a le nom de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre était déjà poursuivi à ce moment-là parce que dans une usine à Lyon, à Saint-Gobain, il y avait les grévistes, les camarades de la CGT qui occupaient l'usine. Ils occupaient l'usine et tout en occupant l'usine, ils avaient pris des dispositions pour que le ravitaillement puisse leur parvenir, c'est-à-dire leurs femmes, leurs familles, les camarades de l'extérieur leur apportaient chaque jour le ravitaillement pour qu'ils puissent rester dans l'usine 24 heures sur 24. Et il se trouve que la police fit une irruption dans cette entreprise. Elle, bien sûr, matraqua tous les grévistes qui étaient là, les expulsa et mangea, dévora les provisions qui se trouvaient en attente. Et alors le syndicat, pour créer un cadre de mobilisation beaucoup plus large, déposa un procès contre ces policiers, parce qu'ils s'étaient livrés à un acte de vandalisme et s'étant attribué ces aliments qui étaient réservés aux grévistes. Et c'est dans cette campagne de solidarité que le fameux abbé Pierre se trouva entraîné et se trouva poursuivi avec la Voix du Peuple, qui était l'organe du Parti communiste dans le Rhône. Et l'abbé Pierre avait fait un article dans la Voix du Peuple pour exprimer sa réprobation de cette action policière. Et c'est comme ça qu'il fut poursuivi, c'est comme ça que je rédigeais une pétition et que j'ai retrouvé cette pétition dans mes documents.
On sait l'année de cet événement ?
Ça devait être en 1952 ou 53, par là, puisque j'ai pris la direction du Secours populaire en 1950, 1er février 51. Ah, voilà, le journal La Voix du Peuple, qui doit comparaître devant le tribunal le 14 février 1951, ainsi que l'abbé Pierre, pour dénonciation calomnieuse. Voilà, c'est un hommage que je rends à l'abbé Pierre. J'avais une très grande estime, une très grande admiration pour ce personnage. Il nous a quittés ces derniers jours et je suis heureux de pouvoir lui rendre ce témoignage d'amitié, d'affection et disons cette part de l'histoire où l'abbé Pierre se trouve impliqué avec ce combat qu'il a mené toute sa vie. Voilà un peu plusieurs aspects de l'action qui était celle du Secours populaire à ces années-là. Il faut rappeler que il y avait une répression coloniale très très forte. Il y avait eu déjà les événements de Madagascar où il y avait eu des centaines et des centaines de tués. Puis ensuite, il y avait la répression en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans toutes ces colonies. Il y avait des actions répressives et il fallait que nous intervenions et nous sommes intervenus. J'ai là également des tracts de cette période, des pétitions où on parle de la Tunisie, où on parle de l'Algérie, où on parle de toutes ces actions que nous avons menées. L'Algérie, c'est venu plus tard parce que c'est surtout en 1956 que les événements se sont produits, mais déjà avant, il y avait une féroce répression qui frappait tous ceux qui luttaient pour l'indépendance de l'Algérie ou pour la liberté simplement en Algérie. Voilà un peu des souvenirs qui me reviennent et tous ces documents que j'ai compulsés cette nuit me donnent la preuve de l'activité énorme que nous avons menée pour défendre à ce moment-là les peuples coloniaux. Il y avait des réunions, j'ai participé à plusieurs manifestations à Paris, une grande sensibilisation dans cette action que nous menions, et c'était très difficile. C'était très difficile parce que l'esprit colonialiste à ce moment-là était fortement imprégné dans le peuple de France. On parlait de nos colonies comme d'une richesse, comme un travail de civilisation que nous avions fait là-bas, et il fallait faire éclater la vérité, dire que c'était pas de la civilisation, que c'était de la répression. Et cela, ça demandait beaucoup de courage, beaucoup d'initiative. Voilà un petit peu les actions que nous avons menées durant les années 50-56. Il y a eu la défense, bien sûr, de Jacques Duclos, qui avait été arrêté, des syndicalistes, d'Alain Leléap, enfin, toute une série de camarades. C'était la répression à ce moment-là. Ces années 50-56 ont été des années noires. C'était la guerre froide, c'était l'arbitraire qui était en place pour remettre en cause nos libertés, pour essayer de frapper le mouvement syndicaliste, le mouvement politique de gauche dans ce pays. Et je dois rappeler que parmi les actions que nous avons menées, en particulier, il y a eu celle des époux Rosenberg. Les époux Rosenberg, c'est quelque chose qui est le fruit de cette guerre froide. Ils avaient été arrêtés pour espionnage parce que, soi-disant, ils étaient en possession des secrets de l'arme atomique, et ils avaient livré ces secrets à la Russie ou quelque chose de cet ordre. Donc ils furent arrêtés. Ils furent arrêtés en Amérique, et nous avons fait beaucoup, beaucoup pour les époux Rosenberg. Nous avons fait beaucoup parce que il y avait le mari, il y avait la femme, il y avait les enfants qui étaient à l'extérieur, il y avait cette répression, ce besoin de cette justice américaine de frapper ces combattants de la paix, et ce fut pour nous quelque chose de très puissant, des rassemblements, des meetings, des milliers de personnes rassemblées, des millions de signatures recueillies, et malheureusement, nous n'en réussîmes pas. Les époux Rosenberg furent électrocutés, et malgré et en dépit de cette campagne que nous avions menée. C'est quelque chose qui m'est resté particulièrement sur le cœur, parce que ce jour-là où ils furent ainsi électrocutés, nous étions dans l'attente, peut-être y a-t-il encore une chance, et puis non, la chance ne vint pas, ils furent électrocutés. On fait actuellement des études, des livres sortent sur les époux Rosenberg. Je pense que c'est une page d'histoire qu'il faut réactualiser, parce que ça donne l'image de ce qui se passait à cette période, que ce soit en Amérique, que ce soit chez nous.
Vous apprendrez un jour, mes fils, vous apprendrez pourquoi nous reposons sous terre. Le livre à moitié lu, le chant interrompu, et la besogne inachevée. Ne pleurez plus, mes fils, ne pleurez plus. Le monde entier saura le pourquoi du mensonge et de la calomnie. Le monde entier saura nos pleurs et notre peine. Joyeux et vert, mes fils, joyeux et vert sera le monde au-dessus de nos tombes. Les tueries cesseront, la terre fleurira dans la paix fraternelle. Travaillez, construisez, mes fils, un monument
à l'amour, à la joie, à la valeur humaine. Et à la foi que nous avons gardée pour vous, mes fils, pour vous.
Et puis il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu la guerre d'Indochine. Alors là, ce fut également une étape extraordinaire, parce que la guerre d'Indochine, il y avait en avant le nom de Henri Martin. Henri Martin était un ancien résistant qui était parti en Indochine lorsque le Japon était en guerre contre l'Indochine. Et puis lorsque la guerre a été finie avec le Japon, cette guerre en Indochine s'est transformée. Les troupes françaises n'ont pas lutté contre les Japonais, ils ont lutté contre la résistance indochinoise qui, avec Ho Chi Minh, était dans le combat pour assurer son indépendance. Et c'est comme ça que Henri Martin, l'ancien résistant, qui il devint quartier maître d'ailleurs de la marine, cet ancien résistant demanda à ne plus servir dans l'armée, ce qui lui fut accordé, mais par contre, il prit une position énergique pour défendre le peuple indochinois, pour défendre Ho Chi Minh. Et c'est comme ça qu'il fut arrêté, qu'il fut traduit devant le tribunal, qu'il fut condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et là, nous avons mené une campagne extraordinaire pour défendre Henri Martin. Je me souviens de ces réunions, je me souviens d'un meeting à la Bourse du Travail où j'avais pris la parole, où il y avait des milliers de personnes. La Bourse du Travail était pleine à craquer. Je me souviens de la visite du père Henri Martin. Nous avions reçu papa Martin pour lui faire faire des réunions à nos côtés, pour qu'il nous parle de son fils qui était emprisonné. Nous avons reçu la fiancée de Henri Martin qui est venue à Lyon, dont j'ai ici la photo avec un article que j'avais rédigé à ce moment-là dans La Voix du Peuple. Je l'avais intitulé « Simone, la vaillante compagne d'Henri Martin ». C'est tout cela, c'est tout ce militantisme qui a permis la libération de Henri Martin quelques mois avant que son temps ne fût écoulé, mais pour moi ce sont des images qui me restent, ce sont des souvenirs très grands. Parce que, à ce moment-là, nous avions atteint ce qu'on peut appeler la sensibilité populaire. Nous avions avec nous, pas que les communistes, ni les socialistes, mais nous avions de nombreux chrétiens, de nombreux patriotes qui étaient engagés dans cette campagne pour la défense de Henri Martin. J'ai là une des réunions que je fis avec Louis Martin, le père d'Henri Martin. Cette réunion était présidée par monsieur le pasteur de Purie. C'était très large, c'était quelque chose qui avait pris une ampleur nationale. Et j'avais promis, je me souviens, j'avais promis à mes camarades que lorsque Henri Martin serait libéré, n'importe où je me trouve, ce jour-là, je paierais le champagne. Il se trouvait que j'avais appris sa libération lorsque j'étais à la Fédération du Rhône du Parti, place des Jacobins, et j'ai demandé à mes camarades de venir au café à côté prendre le champagne. Alors j'ai payé ma bouteille de champagne, nous étions 6 ou 7, mais le champagne n'était pas frais. Mais nous l'avons quand même bu chaud, parce qu'il fallait marquer l'événement. Voilà, ce sont des souvenirs qui restent, qui rappellent un peu cette période et cette histoire du Secours populaire français à ce moment-là, durant ces années-là.
Entendez-vous, gens du Vietnam, entendez-vous dans vos campagnes, dans vos rizières, dans vos montagnes, Oui, nous les entendons. Ces êtres inférieurs, architectes, danseurs, pêcheurs et mineurs, jardiniers, sculpteurs, tisserands ou chasseurs, paysans et pasteurs, artisans et dockers, coulisses, navigateurs. Ces êtres inférieurs ne savaient haïr que la haine, ne méprisaient que le mépris. Ces êtres inférieurs ne craignaient guère la mort tant ils aimaient l'amour, tant ils vivaient la vie. Et leur vie quelquefois était belle comme le jour. Et le sang de la lune courait sur les rizières, et le jour lui aussi était beau comme la nuit. Et les grands planteurs des VA, les seigneurs de la Banque d'Indochine, et les grands charbonniers du Tonkin, en appellent sans plus tarder à la quatrième république, empirique, apostolique et néo-démocratique. Alors, la fille aînée de l'Église, son sang ne fait qu'un tour. Un pauvre capucin et grand amiral des galères arrive à fond de train par la mer, et après avoir fait ses sommations d'usage, « Ceci est mon corps expéditionnaire, ceci est votre sang !» À coups de trois canons, il sermonnait Yifang. Des anges exterminateurs accomplissent leur mission et déciment la population. Simple petit carnage, présage dans le ciel, sévère mais salutaire leçon, évoque la galère. Après avoir bien joué son beau rôle dans l'histoire, l'amiral se retire dans sa capucinière, en dédaignant la gloire. Et le temps fait semblant seulement de passer. Le temps du halte-là reste là, l'arme au pied. Le temps des cerisiers en fleurs arrachés à la terre et volatilisés. Et malgré d'inquiétantes menaces de paix, les gens du trafic des piastres fêtent toutes les fêtes et sans en oublier, et l'on réveillonne à Noël comme au bon vieux pays, à Saïgon, à Hanoï, et l'on fête l'armistice et la libération, comme le 14 juillet la prise de la Bastille sans façon. Cependant, que très loin on allume des lampions aux napalmes sur de pauvres paillotes, et des femmes et des hommes, des enfants du Vietnam, dorment les yeux grands ouverts sur la terre brûlée. Et c'est comme Oradour, c'est comme Madagascar, et comme Guernica, et c'est en plus modeste tout comme Hiroshima. Pour arrêter ou améliorer la regrettable et nécessaire guerre du Vietnam, il suffit, c'est tellement simple, de mettre le Vietnam dans la guerre. Et résumant cette solution en un slogan d'une indéniable efficacité, virilité, rapidité. Il reprend l'avion, non sans avoir donné de très judicieuses précisions. Des Français et des Vietnamiens se faisaient tuer pour protéger la vie et la fortune des gens qui entassaient d'immenses richesses, pour ne parler que de Chinois de Saïgon et de Vietnamiens de Hanoï, et tout cela aux frais du contribuable français. Dès lors, une seule solution, créer une armée proprement vietnamienne, assez puissante, pour rétablir l'ordre, puisque c'est au Vietnam, Tonkin, Hanam, Cochinchine, pays de 25 millions d'habitants, que se fait la guerre. C'est par la création de cette armée nationale que le peuple vietnamien prendra pleinement conscience de son indépendance. Il faut que cette guerre où se joue l'indépendance du Vietnam, les libertés et la fortune de ses citoyens soient considérées par lui comme sa guerre. Il faut que ses élites cessent d'être attentistes, soucieuses de ne pas se compromettre dans l'hypothèse d'une victoire des communistes. Il faut que ce soit une guerre faite par la France, faite par le Vietnam avec l'aide de la France, et non une guerre faite par la France avec l'aide du Vietnam. C'est d'abord un état d'esprit à créer, celui que ce vieux lion qu'est le président Syng Man Rhee a su créer en Corée, et ce sont des réformes profondes à faire. Pourquoi ? Gardez-vous en prison. Et déjà depuis de longues années, un marin qui s'appelle Henri Martin. Thank you.
Alors évidemment, nous avions beaucoup de travail sur le plan de l'organisation, parce que organiser le Secours populaire français, avoir toujours ce problème de solidarité dans l'action que nous menions, c'était créer des assises un peu partout. Nous étions installés là-bas à Lyon, mais il fallait avoir des points d'attraction, des points d'attache dans toutes les localités, et je retrouve là un dossier, un rapport sur l'activité du Secours populaire à cette époque, et je vois que nous étions implantés à Oullins, à Bron, au Vinatier, à la Guillotière, à Jarlan, à Paris, à Vénissieux, à la Sécurité sociale, à Perrache, au Vieux-Lyon, au Brotteau, à Villeurbanne, à la Croix-Rousse, à Montplaisir, à Givors, etc., etc. Et là, nous avions des camarades formidables, nous organisions des conférences, tous les ans nous avions notre conférence, et tous les ans il y avait des camarades qui se relayaient, et les adhésions devenaient, allaient jusqu'à atteindre plus de 1 500 adhérents, je crois que nous étions au Secours populaire français à ce moment-là, avec des personnages formidables dans notre comité fédéral. J'avais un camarade qui s'appelait Favoriti, je veux lui rendre hommage ici, parce que c'était un ancien résistant, il avait été déporté, il avait été fait d'achat, il était revenu avec toutes les séquelles de ce qu'il avait enduré là-bas, et il a été mis à ma disposition au Secours populaire français. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et Favoriti nous a quittés, évidemment, sans doute, suite à tout ce qu'il avait souffert, et c'est une belle image d'un camarade. Je me souviens que je devais faire mon discours au moment de ses obsèques, puis j'ai eu un accident de voiture avant d'arriver à Oullins où avaient lieu les obsèques, et j'ai pas pu faire mon travail ce jour-là. Je lui ai rendu hommage par un article très long, une sorte de plaquette que nous avions édité pour rendre hommage à mon ami Favoriti, et je le salue ici au cours de cette émission. Nous avions aussi un camarade dont je tiens à évoquer le nom, c'est le camarade Gilbert. Le camarade Gilbert était un prêtre ouvrier, et ce prêtre ouvrier s'est mis entièrement à la disposition du Secours populaire français. Il était de nos réunions, il était de nos manifestations, il était de nos délégations à Paris. C'était vraiment la disponibilité, le militantisme à 100%. Et je pense qu'il nous a fallu des hommes comme ça pour arriver à faire face à tout ce travail que nous avions, à toutes ces actions que nous devions mener. Et toujours, toujours, la solidarité, les listes de pétitions, récupérer de l'argent pour aider ceux qui étaient emprisonnés. La souscription, l'argent, vous savez, c'est une part du militantisme qui est le plus ingrat, qui demande le plus d'efforts, et on s'use dans ce combat. Je veux parler de cet Egbe Gilbert parce que il m'arrivait. Je suis toujours très étourdi, je suis resté très étourdi, c'est un peu ma particularité, un peu en art, très étourdi. Vous voyez, quand ça se rejoint, ça arrive à faire des étincelles qui sont pas toujours particulièrement flatteuses pour moi. J'étais un jour à Vénissieux, à une réunion du Secours populaire, la salle était pleine à craquer, et alors j'ai voulu parler de l'abbé Guibert, et à un moment donné, dans mon envolée oratoire, j'ai dit, je demande à mon camarade l'abbé Guibert de venir prendre place à mes côtés à la tribune. Lui, il était là-bas, il se déplaçait pas, il voulait pas bouger. Alors, j'ai dit, puisqu'il veut pas se déplacer, moi je vais le chercher. Alors, je descends dans la foule, et puis j'ai pu reconnaître l'abbé Guibert en un personnage qui lui ressemblait. Je l'amène à la tribune, tout le monde rigolait. J'ai dit, c'était un ancien matelot qui était connu de là-bas pour son humour, pour un peu ses réparties, et voilà ce gars qui remplaçait l'abbé Guibert. Et l'abbé Guibert se bidonnait dans la salle, il riait aux éclats. Voilà un peu le Pestouri, l'image qu'il laisse à certains de ses passages. Mais enfin, ça, c'était quelque chose que Je le regrettais, bien sûr, mais ça faisait partie du décorum des choses. Ça voulait dire qu'il y avait une telle fraternité entre nous, une telle atmosphère, et nous arrivions à sensibiliser tellement les gens, à les imprégner de cette foi qui était la nôtre, de cet esprit de justice et de liberté qui était le nôtre, que ça avait des résultats remarquables. Je le répète, c'est la période de mon activité militante où j'ai senti que c'était quelque chose qu'il fallait faire parce que c'était quelque chose qui obtenait des résultats à travers l'action que nous menions. Et puis, bien sûr, quand on est dans cette situation, on est un peu, disons, remarqué par les camarades. À Paris, le département du Rhône, c'était un des départements qui était à l'avant-garde par son activité. Lorsque j'allais aux réunions à Paris du Secours populaire français, au congrès, que je faisais le bilan de notre travail, il y avait bien sûr les applaudissements, il y avait les encouragements. Et puis un jour, on m'a demandé... C'était en 1953, je crois, ou 54, deux ans avant que j'arrête cette activité, on m'a demandé d'appartenir au Bureau national. C'est ainsi que pendant près de deux ans, j'étais à la fois responsable de la Fédération du Rhône du Secours populaire français et membre du Bureau national. Alors le Bureau national, c'était une tâche encore plus ardue parce qu'il y avait les réunions du Bureau national toutes les deux semaines à Paris. J'en manquais quelques-unes, mais j'allais chaque fois que je le pouvais. Ça posait des problèmes difficiles, y compris dans mon couple. Et je me souviens que là-haut, à ce Bureau national, je me suis enrichi de la présence de ces camarades qui avaient la même disponibilité que nous, la même foi que nous. C'était au moment où il y avait des camarades comme Pierre Éloire, qui en était le secrétaire général, avant que ne soit Julien Leprêtre, qui en est encore aujourd'hui le président. Il y avait aussi Charles Désirat. Il y avait un homme que j'aimais beaucoup, Francis Jourdain. Francis Jourdain, qui était peintre, qui était un artiste, et avec qui nous avons engagé une correspondance, et dont je garde une très belle image. Je suis fier d'avoir compté parmi ses amis, parmi ces gens qui étaient à mes côtés. J'étais pas indifférent envers leur personne, et cela me flatte beaucoup, parce que la richesse qu'ils m'apportaient, c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup servi dans mon travail, y compris dans ce travail de recherche et ce travail de mémoire que je fais actuellement. Voilà un petit peu ces souvenirs. Je me souviens que lorsque j'étais au Bureau national, j'ai participé à l'édition d'une brochure qui s'appelle « Défendons nos droits ». C'était une petite plaquette où nous expliquions que en cas de descente de la police ou en cas de poursuite, tous les moyens qu'il y avait pour se défendre, les moyens juridiques et les moyens d'action, les initiatives qu'il fallait prendre, ce qui allait se passer au tribunal. Voilà, j'ai rédigé cela avec un camarade, je crois, et ça a produit cette brochure qui a été distribuée dans toute la France à plusieurs centaines d'exemplaires. Voilà des souvenirs.
Populaire français aujourd'hui, l'image que j'en ai, je ne sais pas si c'est la bonne, c'est que c'est une organisation humanitaire, pas comme les autres, mais presque, c'est-à-dire qui fait beaucoup d'aide sous forme matérielle. À l'époque, ce que vous nous avez décrit, c'était plutôt de l'action politique.
Voilà. C'est un peu pour la raison pour laquelle on m'a détaché à cette activité. Parce que j'étais quand même un homme politique. J'étais à la direction du Parti communiste français dans la Fédération du Rhône. Et lorsque tous ces problèmes se sont posés au Secours populaire français, ce sont devenus des problèmes politiques, parce que c'était la répression, et la répression politique, c'était la guerre froide. Il y avait un enjeu qui disons, conduisait au niveau politique toutes les actions, toutes les démarches du Secours populaire français. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on m'a détaché à cette activité, pour donner cette tonalité, pour donner cette connotation, à savoir qu'il y avait l'action de solidarité à ce moment-là, mais il y avait aussi l'action politique, c'est-à-dire combattre pour la justice, pour la liberté, pour la défense de nos camarades résistants qui étaient poursuivis et emprisonnés, et combattre pour les libertés, pour cette liberté qui avait été le fondement même de notre action dans la résistance.
Et aujourd'hui, le mouvement a toujours cette dimension politique ?
Aujourd'hui, c'est le Secours populaire. Je suis toujours au Secours populaire français encore aujourd'hui, à Bonn. Je milite très très peu, mais il y a une équipe très 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 forte, très disponible. Ils m'ont demandé de préfacer une brochure il y a 2 ans qu'ils ont rédigée, où se trouve résumé toute leur activité. J'étais très content de faire la préface de cette brochure, mais c'est surtout une action de solidarité, une action d'aide, une action financière. C'est toujours des collectes d'argent pour les victimes des maladies, pour les victimes en Algérie, la misère, soulager la misère. Et lorsqu'il y a des catastrophes, le Secours populaire intervient. C'est surtout aujourd'hui sa raison d'être, sa principale activité. Il y a eu une sorte de mutation dans ce parcours venu du Secours Rouge International au Secours populaire français de France et des colonies et au Secours populaire français. Aujourd'hui, il y a une autre manière, disons, d'agir dans le Secours populaire français.
Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Debout peuple de la terre, un seul but, unissez-vous. Que la terre soit notre terre, notre nourriture à tous. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Les bruns, les blancs, jaunes ou noirs, cessez de vous massacrer. Que les peuples enfin se parlent, l'accord viendra sans retard. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Vous tous êtes nécessaires si nous voulons arriver. Et ne pas aimer son frère et refus de progresser. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Ne prêtons pas d'armes aux maîtres, heureux de nos désaccords. Ils demeureront nos maîtres tant que dureront nos torts. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Prolétaire de tout pays, l'union c'est la liberté. Vos bataillons et vos armées effacent les tyrannies. Allez, n'oublions jamais, posons franchement la question. Ventre plein ou ventre creux, à qui appartient le matin, tous les matins du monde?
Mais ces souvenirs, et peut-être je terminerai là-dessus. Je terminerai là-dessus. C'est que quand on poursuit comme ça au jour le jour une telle activité, à un moment où il y a quelques problèmes de couple, parce que on n'est jamais là. Et là, ma santé, et j'ai craqué. C'est comme ça que j'ai arrêté le Secours populaire français en 1956. En 1956, j'ai dû cesser, j'en pouvais plus, j'ai pris un malaise, je savais pas ce qui se passait, un peu déprimé. Alors, les poumons, je toussais, et bien sûr, visite médicale, et on me soignait comme tuberculeux. On a dit, il est tuberculeux, il faut le soigner. On m'a soigné comme tuberculeux, j'ai dû arrêter mon travail, puis ça n'a rien fait, et j'étais complètement découragé. Le corps médical m'a abandonné. Ils m'ont dit, écoutez, on vous soigne, les médicaments ne servent à rien, il faut attendre la mort, quoi. Tuberculeux, les poumons très malmenés. Un jour ici, j'ai cassé 6 assiettes, j'ai pris une colère, et j'ai dit à ma femme, il faut, je peux pas vivre dans cette situation. Je peux pas aller à Gignac, là-bas, quand je vais chez moi, que je remarque qu'on me donne une vaisselle à part, chaque femme en verre, on reluque, si c'est pas contagieux. J'ai voulu danser avec la femme d'un copain là-bas, elle a refusé de danser avec moi parce que j'étais en danger de contamination. Je peux pas vivre comme ça. Et c'est comme ça que je suis allé trouver le professeur Santi, comme ça, de moi-même. J'ai demandé rendez-vous, il m'a reçu chez lui, et je me rappelle toujours quand il m'a passé la radio, il a sifflé, oulala, oulala, oulala. Ben, j'ai dit, écoutez, il m'a dit, vous savez, tout est pris là-dedans, tout est pris. Alors, je lui ai dit, écoutez, si je me faisais opérer, est-ce que vous accepteriez de m'opérer? Et le professeur Santi m'a dit, si vous me le demandez, je le ferai. Et c'est comme ça que j'ai été opéré à Grange-Blanche par le professeur Santi. C'était pas tuberculeux, c'était cancéreux. C'était cancéreux. Et c'est comme ça, on m'a opéré d'un cancer, j'ai plus qu'un poumon, et ça a été très dur. Je me souviens toujours au pavillon O où j'étais, il y avait la sœur Marie qui était un personnage très dur, mais très humain aussi, parce que les malades, nous étions 28 là, nous étions très pénibles. Il y a eu 2 anecdotes, tous les soirs on venait avec un chariot, on venait ramasser ceux des nôtres, ceux d'entre nous qui ne passions pas la nuit, 3 ou 4, et alors on se demandait si le chariot allait venir de votre côté, voyez. Et puis j'avais un gars qui était à côté de mon lit, qui comprenait pas. Je lui avais dit, parce que je m'en suis jamais caché, que j'étais communiste. Alors lui, il partageait pas du tout ses opinions. Et puis quand ma femme venait chaque jour à la visite me voir, c'était une très jolie femme, elle travaillait à la caisse B, à la sécu, très jolie femme, très distinguée, très cultivée. Et quand elle rentrait, ça faisait, disons, ça a donné un souffle de bien-être. Et mon camarade de Lyman, je comprends pas comment un communiste peut avoir une femme aussi jolie. Mais j'ai dit, c'est comme ça. Et alors, il s'est trouvé que une nuit, j'ai craqué complètement. Je me suis affalé, tout ça. Et c'est lui qui m'a sauvé. C'est ce gars qui... Il m'a dit, quand on s'appelle Roger Pestouri, on n'a pas le droit d'être la loque que vous devenez. Voilà. Et il m'a rendu ma fierté, il m'a rendu mon honneur. Voyez comment, dans toutes les sensibilités, à un moment donné, il y a quelque chose qui communique, et il y a un peu l'âme qui se ressort de tout cela.
Mais vous êtes un grand espoir pour les malades, parce que 50 ans après,
voilà, je suis un grand espoir, parce que j'ai eu mes dossiers là-bas à Grange-Blanche, et lorsque j'avais souffert, le professeur Santi n'est jamais venu me voir pendant que j'étais malade. Vous savez, c'était un grand personnage, il y avait tous ces seconds qui venaient, tout ça, mais ça me manquait quand même. Et le professeur Santi m'a revu un mois après, parce qu'il a fait une conférence à l'amphithéâtre là-bas à Grange-Blanche, sur ma personne. Alors j'étais là, j'allais sortir, et il a fait sa conférence, mais il a fait comme si j'existais pas. Il a fait ça, c'est ici, c'est là, et il a dit à un moment qu'il m'avait assuré une survie pour 10 ans. Quand moi je suis sorti de là, 10 ans, j'avais 36 ans à ce moment-là, je trouvais quand même que ça allait bien, la santé, mais c'était quand même quelque chose, oui, et lorsque la 10e année est arrivée, j'ai eu un peu la trouille de dire, est-ce que vraiment, alors il y a 50 ans, comme vous dites, ben maintenant, je peux considérer que c'est une page tournée, j'ai cet handicap, bien sûr, mais voilà, un peu le souvenir du Secours populaire français qui me reste. Je terminerai en disant que cette maladie, d'une part, j'avais été malade une autre fois au lendemain de la libération, c'est curieux parce qu'il y a le lendemain de la libération où j'ai été opéré à Dejenette, j'avais été opéré des hémorroïdes, ça avait fait fistule, le gars à côté de moi y a laissé sa peau parce qu'on ne s'était pas soigné en temps voulu à ce moment-là, et pour moi ça a été très douloureux, ça a été une opération, c'était toujours au terme de deux batailles importantes, les deux grandes batailles de ma vie en quelque sorte, il y a toujours la maladie qui est venue me frapper. Voilà pour un épisode que je voulais rappeler parce que ça aussi c'est lié à ces problèmes personnels, aux problèmes de conviction qui sont les nôtres. Donc, je tenais à faire cet entretien sur ce Secours populaire français, parce que dans mes souvenirs, ça tient une grande place, et j'encourage mes amis, mes camarades du Secours populaire français à poursuivre cette action de solidarité et à appliquer ce que j'ai dit en début de cet entretien, cette formule de rester fidèle à cette formule, tout ce qui est humain est notre.
Monsieur Pestoré, je vous remercie. Ainsi, nous arrivons au terme de cette 8e émission réalisée à partir du 7e entretien avec Roger Pestoré. Le thème de celle-ci en était le Secours populaire français. Au fil de cette émission, vous avez entendu les illustrations musicales suivantes. Le jour de Sacco et Vanzetti, c'est un texte de Louis Aragon mis en musique par Michel Villard et interprété par Marc Cogeret. Ensuite, c'est Jean Ferrat qui, sur sa musique et sur les paroles d'Elie Rosenberg, interprétait « Si nous mourons ». Puis, c'est successivement un instrumental de Joseph Cosma, un inédit, interprété au piano par Gérard Pellier, la chanson « Misère ». Le texte de Jacques Prévert, du moins des extraits de ce long poème « Entendez-vous, Jean du Vietnam ?» dit par Jean-François Moulin, c'est un enregistrement en direct dans les studios de Radio Canu en octobre 2002. Et puis à nouveau un instrumental de Cosma, le chant d'amour arménien au piano par Gérard Pellier, un inédit de Radio Canu aussi. Enfin, vous avez pu entendre Hélène Martin interpréter le texte de Bertolt Brecht mis en musique par Hans Eisler, le chant de la solidarité. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec Roger Pestoré, que nous remercions.
Quand il chante la femme son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque.
Thank you.
la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. C'est pas de la rengaine, à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise, on se bise en claque.